الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Plusieurs règles liées aux prières qui prient derrière l'imam. Premièrement, c'est détestable de faire des rangs entre des poteaux, car ça coupe le rang. Et en cela, il y a des hadiths. Le premier rapporté par l'imam Abu Dawood et Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Al-Imam Ahmed, Al-Humayd ibn Mahmoud a dit: on a prié le Jumu'ah avec Anas ibn Malik et il nous poussait des poteaux. Nous on s'avançait et on reculait. Et il a dit, on s'éloignait de ces choses-là au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on évitait de prier entre les poteaux, de faire les rangs entre les poteaux. Il y a un autre hadith de Muawiyah ibn Murra an Abi. Certains ulama disent qu'il est faible, mais en fait, il vient renforcer le premier hadith qu'on a cité auparavant et il va dans le même sens. Donc ce hadith rapporté par Ibn Majah, Ibn Khuzaymah ou Ibn Hibban, où il a dit, on nous interdisait ou on nous décommandait de prier, de faire des rangs entre les poteaux au temps du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc ça c'est pour faire les rangs, en ce qui concerne le fait de faire des rangs. Mais si on sait que le rang ne peut pas être coupé, par exemple c'est le dernier rang, on est deux, et il y a de la place encore pour remplir encore, c'est-à-dire le rang sans qu'il soit coupé, c'est-à-dire les poteaux ils sont loin, et que le rang qu'on est en train de faire il ne va pas être coupé, dans ce cas-là ce n'est pas détestable de prier entre les poteaux. De même, il n'est pas détestable de prier entre les poteaux pour l'imam, ou bien l'il munfarid, ou pour une personne qui prie seule. Par contre, s'il n'y a plus de place dans la mosquée, où on est serré, il y a un besoin, donc on peut le faire. Naam. En ce qui concerne la preuve qu'on peut prier entre les poteaux quand on est seul, il y a le hadith de Ibn Omar qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dans la maison de Usama ibn Zayd. Et avec lui, il y avait Uthman ibn Talha et Bilal. Puis il est resté, il est sorti, et moi je suis la première personne à être rentrée après lui. Ça c'est Abdullah ibn Omar qui raconte. Et j'ai demandé à Bilal, où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié? Alors Bilal a dit, il a prié entre ces deux poteaux. Donc ça prouve que ce n'est pas détestable pour une personne seule de prier entre les poteaux. Mais c'est seulement pour les rangs, pour pas qu'ils ne soient coupés. La personne qui prie seule derrière le rang, il y a trois avis. Il y a une partie des savants, le madhhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et Ishaq ibn Rahawai, ou l'imam al-Nakha'i, ibn Abi Shayba, ou ibn al-Mundhir, qui disent, celui qui prie derrière le rang seul, sa salat, elle est invalide. Il y a un deuxième avis, celui qui prie derrière le rang seul, c'est détestable, mais sa salat, elle est sahiha. Ça, c'est l'avis d'Abi Hanifa, et de l'imam Malik, l'Auza'i, et de Shafi'i. Et il y a un troisième avis qui dit, si il prie seul derrière le rang, sans raison valable, sans excuse, sa salat, elle est batila. Mais s'il a une excuse, sa salat, elle est sahih. Et ça, c'est l'avis de Hassan al-Basri. C'est un autre avis de Abi Hanifa. C'est l'avis de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et de son élève Ibn al-Qayyim. Et c'est l'avis parmi les contemporains de Cheikh al-Uthaymin et de l'Albani, rahimahumullah, jami'an. Le premier avis, ils se sont basés sur le hadith de Ali ibn Shiban. Il dit, on est sorti pour aller prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a prié derrière lui une prière, puis une autre. Après avoir fini la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui priait seul derrière le rang. Il a été se mettre devant lui, il l'a regardé. Quand il a fini, il lui a dit, recommence ta prière, car il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. Donc ce hadith, il est sahih, rapporté par l'imam Ahmed ibn Majah et ibn Hibban. Il y a un autre hadith de Wasiba ibn Ma'bad, rapporté par Tirmidhi et Abu Dawood, ibn Majah et Ahmed, et c'est un hadith aussi sahih. Donc il dit, il y a un homme qui a prié derrière le rang seul, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de refaire sa prière. C'est l'avis de ceux qui disent, celui qui prie seul derrière le rang, excuse ou pas excuse ou quoi que ce soit, sa salat elle est batila. Le deuxième avis, eux ils disent, la salat elle est valide, mais c'est détestable. Celui qui laisse ça, il sera récompensé. Celui qui le fait, il n'aura pas de péché, mais Il ne gagne pas la récompense de délaisser ça. C'est ça le makruh. Ils se sont basés sur les mêmes hadiths, sauf qu'ils ont rajouté d'autres hadiths. Un hadith de Abi Bakr, qui est rapporté par Al-Bukhari, Abu Daoud, Al-Nasa'i et l'imam Ahmed. Que Abu Bakr, il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en recours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était derrière. Il a dit Allahu Akbar, il s'est mis en recours tout seul. Et il a avancé en recours. Jusqu'à qu'il s'est mis dans le rang. On a évoqué cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Zadak Allahu Hirsan. Qu'Allah te rajoute de l'envie et de la volonté. Il lui a dit mais recommence pas. Donc ils ont dit si Abu Bakr, il a commencé sa prière, il était seul derrière le rang. Si la prière de celui qui est seul derrière le rang, elle était invalide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait ordonné de refaire sa prière. Il y a un autre hadith, le hadith de Abdullah ibn Abbas qu'on a vu auparavant. Que Abdullah ibn Abbas, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, il est venu se mettre à sa gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par son oreille, il l'a tourné derrière lui, puis il l'a mis à sa droite. Ils ont dit, il y a eu un moment dans la prière où Abdullah ibn Abbas était seul derrière le rang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté sa prière. De même, qu'ils ont dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prière complètement, qu'elle est invalide. Ça veut dire qu'il n'a pas la récompense complète. Et ils se sont basés sur un dernier hadith de Umm Sulaym, quand elle a prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et derrière Anas et l'orphelin. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'imam, derrière lui il y avait Anas et un orphelin, et derrière eux il y avait qui? Umm Sulaym, la mère de Anas. Radiallahu anha, seule dans le rang. Ils disent elle était seule dans le rang, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, présidé cette prière, donc ça prouve que leur prière, elle est valide, et que les premiers hadiths qu'on a vus, ça ne veut pas dire que leur prière est invalide, mais qu'elle n'est pas complète, qu'ils n'ont pas la récompense complète. Ça, c'est le deuxième avis. Le troisième avis, comme on avait dit, c'est l'avis de l'Hassan al-Basri, et c'est un autre avis de Abu Hanifa. Des fois, certains imams ils peuvent avoir deux avis. La même personne elle peut avoir deux avis dans une même question. Et l'avis de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et ibn al-Qayyim et Cheikh l'Uthaymin et Cheikh l'Albani rahimahumullah jami'an, parmi les contemporains. Eux, ils ont dit celui qui prie seul derrière le rang sans excuse valable, sa prière elle est invalide. Mais s'il a une excuse valable, sa prière elle est valide. Comment ils en sont arrivés à cet avis-là? Ils ont pris les mêmes preuves que ceux du premier avis, c'est-à-dire que c'est obligatoire de ne pas prier seul, que c'est interdit de prier seul derrière le rang. Mais ils ont dit, il y a beaucoup de choses dans l'islam qui montrent que quand il y a une excuse valable, ou quand il y a une incapacité à faire une obligation, alors cette obligation, elle tombe. Comme par exemple, la personne, c'est obligatoire de prier debout dans la prière, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un n'est pas capable, il prie assis. Si quelqu'un ne peut pas prier assis, il prie allongé. C'est obligatoire de faire les ablutions avec l'eau. Si quelqu'un n'a pas d'eau, il fait tayammum. Si quelqu'un n'a pas de tayammum, ni l'eau, rien, il fait la prière dans l'état dans lequel il est. Donc, ils ont dit, « الواجب يسقط لعذر. الواجب يسقط مع العذر. لا يبقى واجب, لا يبقى أن القاعدة أنه لا واجب مع العجز. لا واجب مع العجز. Il n'y a pas une chose qui est obligatoire quand tu es dans l'incapacité de l'accomplir. Le avis le plus juste, je pense, c'est le troisième avis. Pourquoi? Pourquoi le deuxième avis n'est pas juste? Et pourquoi le premier avis n'est pas juste et on a choisi le troisième avis? On va commencer par répondre au deuxième avis. Ceux qui disaient que c'est juste détestable et que ça a été rapporté qu'à Abu Bakr, il s'est mis dans le rang, il a fait recours dans le rang derrière seul, que Abdullah ibn Abbas, il est passé derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Umm Sulaym, elle a prié seule dans le rang derrière. On va répondre d'abord à cela. Premièrement, c'est vrai, Abu Bakr, il a commencé derrière, mais il n'a pas fini sa prière seule derrière. Il s'est mis dans le rang. Donc, ce n'est pas pareil que celui qui prie seul toute sa prière derrière. Il est rentré dans le rang. De même qu'Abdullah ibn Abbas. Et Umm Sulaym, la femme, elle a prié seule derrière parce qu'elle avait une excuse valable. Parce que justement, il n'y avait aucune femme avec qui elle pouvait faire le rang. Elle ne va pas faire le rang avec les hommes. Donc voilà comment on peut répondre à ceux du deuxième avis. Et justement, le hadith de Umm Sulaym nous montre que s'il y a une incapacité, on peut prier seul derrière. Pour résumer cela, celui qui vient à la mosquée et qui trouve que les rangs sont complets, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça la question finale à laquelle on arrive. Premièrement, il regarde le dernier rang. S'il trouve une place dans le dernier rang, ça lui est obligatoire de rentrer dans cette place-là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, s'il n'y a aucune place dans le dernier rang, mais dans les rangs qui sont devant, il y a de la place, alors il lui est obligé de traverser les rangs et d'aller se mettre dans la place vide qu'il y a même dans les rangs devant. Un exemple, on arrive dans une mosquée, par derrière. Tous les rangs sont fermés. 1, 2, 3, 4, 10 rangs. Et il y a l'imam devant. Le dernier rang, il est complet. Mais on voit dans l'avant-dernier rang, ils sont larges. Ils laissent des espaces entre eux. Pas dans le dernier. L'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier, il y a de l'espace. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser entre deux personnes, on va passer et on va se mettre dans le rang de devant ou dans le rang de devant, là où on trouve de la place. Maintenant, s'il pense que personne va le rejoindre, il sait pas. Il y a personne qui fait les ablutions, il voit personne arriver, il est seul. Il n'y a pas de place devant, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien qui prouve qu'on tire quelqu'un. Et le fait de tirer quelqu'un, c'est contraire aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le montrer. Tirer quelqu'un, il y a beaucoup de problèmes dedans. Premièrement, tu gênes la personne que tu tires. Deuxièmement, tu gênes le rang de devant. Ils sont tous obligés de combler le trou que tu as fait. Troisièmement, tu as fait une coupure, tu as cassé le rang de devant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man wasala saffan, wasalahu Allah. Wa man qata'a saffan, qata'ahu Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui coupe un rang, Allah il coupe les liens avec lui. » Donc là, tu as coupé un rang. De même que tu as fait perdre la récompense de cette personne, il était dans les rangs plus proches, tu lui as fait perdre la récompense. C'est-à-dire, il était dans un rang, par exemple, dans le deuxième, tu l'as passé dans le troisième. Donc, tu ne tires personne. S'il n'y a aucune solution, tu pries seul derrière. Et c'est ce que Umm Sulaym a fait. Umm Sulaym, elle a prié derrière Anas et l'orphelin seul. Parce que elle n'était pas dans la capacité de se mettre dans le rang ou de se mettre en rang avec quelqu'un. C'est clair, Inch'Allah? Donc on rentre à la mosquée, s'il y a une place dans le dernier rang, on le prend. S'il n'y a pas dans les rangs de devant, si on pense que des gens vont arriver, on fait le rang derrière. S'il n'y a aucune solution, on prie derrière seul dans le rang. Wa salatu ka sahiha. Ta prière, elle est valide sans aucun problème, car tu t'es mis seul dans le rang derrière pour une excuse valable. Mais aujourd'hui, pour vous dire la vérité, on peut toujours trouver de la place dans le rang. Parce que les gens, ils se collent pas. Ils font pas les rangs à la sunna. Ils font pas les rangs comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu peux facilement aujourd'hui te glisser entre deux personnes. Un, il va s'écarter un peu à gauche, l'autre un peu à droite. Tout le monde va bouger un peu et tu vas trouver une place. Il y a une autre question qui suit celle-ci. Es-sutra. Es-sutra, c'est le fait de prendre un obstacle devant toi quand tu pries. De ne pas prier dans le vide comme ça. Ou bien de prier proche d'un mur. Ou bien derrière un poteau. Ou derrière quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire cela. De s'approcher d'une sutra quand on prie. Pas prier comme les gens ils font, tout derrière, ils te bloquent le passage, ni au milieu de la mosquée. Mais de prier, ou derrière un mur, ou derrière un poteau, ou derrière n'importe quoi, sauf bien sûr les statues, etc., c'est haram. Naam. Ou bien même derrière le dos de quelqu'un qui est assis, c'est déjà rapporté, comme on vous l'a dit, que les pieux prédécesseurs, que les sahaba, radhiyallahu anhum, les pieux prédécesseurs, ils demandaient à son frère, tiens, assieds-toi devant moi, et ils le prenaient comme sutra, c'est-à-dire, ils lui donnaient son dos, et lui, il priait vers le dos de cette personne, c'est-à-dire, en direction de la qibla. Donc, si l'imam a une sutra, et que des gens passent devant toi, ça te nuit en rien. Car la sutra de l'imam, c'est une sutra pour tout le monde derrière eux. La preuve de cela, c'est quoi? C'est qu'une fois, Abdullah ibn Abbas, il est venu à Mina avec un âne. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si un âne passe devant le prieur, ou un chien noir, ou une femme, ça coupe la prière. La prière, elle est invalide. C'est-à-dire, s'il passe entre toi et l'endroit où tu te prosternes. Après l'endroit où tu te prosternes, c'est pas grave. Alors, Abdullah ibn Abbas est venu avec un âne. Il est passé, il a traversé tous les rangs avec son âne et il a été se mettre dans le rang. Et personne ne lui a fait aucune remarque. Et c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam. Donc, ça prouve quoi? Si la sutra de l'imam, si la protection de l'imam, elle n'était pas valable pour les gens derrière, la prière de tous ceux devant qui il était passé avec l'âne, elle serait invalide. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand un âne passe devant toi en prière, ça coupe ta prière, ça invalide ta prière. Mais le fait que la prière de tous ses compagnons, elle était valide, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cela, il n'a fait aucune remarque, ça prouve que la sutra, que la protection de l'imam, elle suffit pour les gens qui prient derrière lui. De même, le sens contraire est vrai. Si, par exemple, une chose qui casse la prière, qui coupe la prière, passe devant l'imam, la prière de tous ceux qui sont derrière lui, elle est invalide. Là, sa prière à lui, plus tous ceux qui sont derrière lui. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, présidait la prière, il y a une bête qui voulait passer devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est approché du mur. Approché jusqu'à qu'il a collé son ventre au mur. Il a prié son ventre collé au mur. Pour pas laisser passer la bête entre lui et le mur. Pour qu'il la laisse passer derrière lui. Ça, c'est une bête. Donc là, yambari, normalement, un prieur, qu'il prie seul, ou qu'il soit imam, sauf quand il est derrière l'imam. Il peut laisser, comme on a dit, passer les gens. Mais quand il prie seul, ou quand il est imam, il ne doit laisser passer personne entre lui et l'endroit où il se prosterne. Ni même un animal. Et s'il ne peut pas le repousser, alors c'est lui qui fait quelques pas pour s'approcher de la sutra. Pour que l'animal ou la personne passe derrière lui. Combien de distance on a dit? Mawdi' al-sujud. La distance, c'est l'endroit où tu te prosternes. Si par exemple, tu es debout, il y a l'endroit où tu te prosternes, une personne passe devant toi plus loin que l'endroit où tu te prosternes. Alors là, il n'y a pas de problème. La chose que tu ne dois pas laisser, c'est le laisser passer entre toi et l'endroit où tu te prosternes. Alors, quel est le statut de lire la basmala, c'est-à-dire le fait de dire « Bismillahirrahmanirrahim » à voix haute dans la prière? Dans cette question-là, il y a trois avis principaux. C'est une question qui a suscité beaucoup de paroles des savants depuis anciennement jusqu'à maintenant. Il y a même des livres qui ont été écrits juste pour ça. Le premier avis, c'est une sunna de dire Bismillahirrahmanirrahim à voix basse pour l'imam. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, de l'Hanabila, wa ashab al-Ray, wa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, a dit le fait de lire Bismillahirrahmanirrahim à voix basse, c'est recommandé. C'est la majorité des gens de science parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient sur cet avis-là. Et ceux qui les ont suivis parmi les tabi'in, les successeurs. Il a dit, et parmi eux, Abu Bakr, et Omar, et Uthman, et Ali. Et ça a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, et Abdullah ibn Zubayr, et Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhum ajma'in. Et c'est aussi l'avis de l'Awza'i, ou l'imam Soufiane Thawri, et l'imam du hadith Abdullah ibn al-Mubarak. Donc ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, on ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim tout court dans salat. On dit Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Direct. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik et de ceux qui les ont suivis. Rahimahullah. Le troisième avis, ils disent que dire Bismillahirrahmanirrahim, c'est obligatoire. Ça fait partie de la Fatiha. Tu dois le dire à voix haute. Comme tu dis la Fatiha. Et ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Il y a d'autres avis encore. Mais ça, c'est, on va dire, les avis les plus connus. Quelle est la preuve de chacun et quel est le plus juste, Inch'Allah tabarak wa ta'ala. Ceux qui disent que c'est une sunna de le lire à voix basse, ils s'appuient sur des hadiths. Premièrement, le hadith d'Anas ibn Malik, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar, ils commençaient la prière en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de l'imam Muslim, Anas a dit, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, et Omar, et Uthman. Je n'ai entendu aucun d'entre eux dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Un autre hadith, c'est le hadith de Aïcha, radiallahu anha, qui est rapporté aussi par l'imam Muslim, où elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa prière en disant Allahu Akbar. Et il commençait sa lecture en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Là, elle a dit clairement que quand il commençait sa lecture, il ne disait pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix haute. Ils se sont basés aussi sur le hadith al-Qudsi. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi et Nasa'i. Où Allah Ta'ala dit, j'ai partagé ma prière entre moi et mon serviteur en deux. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué, etc., etc. Donc, dans ce hadith Qudsi, Allah ne dit pas quand mon serviteur dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il cite Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà en résumé les avis, les preuves ou les choses sur lesquelles s'appuient ceux qui disent que c'est une sunna de lire à voix basse et non pas à voix haute. Et pour finir, Ibn al-Qayyim rahimallah a dit dans Zad al-Ma'ad, il n'y a pas de doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim tout le temps et toutes les nuits dans les cinq prières, ni en voyage, il ne le disait pas tout le temps. C'est-à-dire en général, il ne le disait pas ni en voyage, ni quand il était citadin. Car il a dit, c'est pas possible que les quatre califes n'auraient pas vu ça. Et que la majorité de ses compagnons ont pris toutes les prières derrière lui et ils n'ont pas appris ça. Donc il dit, s'ils ne l'ont pas rapporté, clairement, ça prouve que la sunna, c'est de le dire à voix basse et non pas à voix haute. Le deuxième avis, il dit, c'est obligatoire de le lire, mais c'est une sunna de le dire à voix haute. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Il dit que Nu'aym al-Mujammar a dit, j'ai prié derrière Abu Huraira. Il a lu Bismillahir Rahmanir Rahim. Puis il a lu la Fatiha. Jusqu'à Ghayril Maghdoubi alayhim wa l'abbalin. Puis il a dit Amin. Et les gens ont dit Amin. À chaque fois qu'il s'est prosterné, il disait Allahu Akbar. Et quand il se lève de son assise, il disait Allahu Akbar. Puis il a passé son salut. Et il a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, c'est la prière la plus proche de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il dit, Abu Huraira, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a fait la prière, il nous a montré, il a dit voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Ça, c'est la première preuve. Ce hadith, il est rapporté par Al-Nasa'i et Ahmed ibn Khuzayma et ibn Hibban. Et il est sahih. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Qatada. Il a dit, on a demandé à Anas ibn Malik, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran. Anas a dit, sa lecture était allongée. Puis, Anas a dit, Bismillahirrahmanirrahim. Et il a dit, il allongeait Ar-Rahman et il allongeait Ar-Rahim. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari. Le troisième hadith, c'est un hadith daif. On le dit quand même, il s'appuie dessus, mais il n'est pas sahih ce hadith. Ils disent qu'Abdullah ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa prière en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà les preuves de ceux qui disent c'est sunna de lire à voix haute Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quel est l'avis le plus juste? Allahu a'lam, l'avis le plus juste c'est de le lire à voix basse. Ça a été prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà lu, que les sahaba l'ont déjà lu et que ça a été rapporté dans le Coran. Le Coran il nous est arrivé jusqu'ici comment? Bittawatur. Par une grande chaîne de transmission à une grande chaîne de transmission. Donc tu ne peux pas dire que ça ne fait pas partie du Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lu. Mais est-ce qu'il l'a lu à voix basse ou à voix haute? C'est ça, toute la question elle est là. Pourquoi on dit que c'est sunna de lire à voix basse? Premièrement, tous les hadiths véridiques qui prouvent que les quatre califes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha le dit, comme Anas radiallahu anhu le dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, ils ont prié derrière lui et qu'ils n'ont jamais entendu dire à voix haute Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont répondu aux preuves de ceux qui disaient que c'est sunnah de lire à voix haute. La première chose, ils ont répondu au hadith d'Abu Huraira. Quand ils disent que Abu Huraira a prié, puis il a dit voilà la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ça veut dire voilà en général. La manière dont j'ai prié, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Ça veut pas dire qu'il a voulu dire qu'il faut dire bismillahirrahmanirrahim à voix haute. Ça, c'est ce qu'il a fait lui. Mais ça veut pas dire que c'est automatiquement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que des fois, il peut arriver à l'imam ou à un enseignant de dire des choses qui devraient se dire normalement à voix basse, à voix haute. Pourquoi? Pour enseigner aux gens. Ça arrive. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, quand il lisait même dans le dhuhr à voix basse ou dans l'asr, des fois, il, un ou deux versets ou quelques mots comme ça, il lisait à voix haute. Certaines duas, des fois, il le lisait un peu à voix mi-haute pour que sahaba, ils voient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quelque chose et qu'ils apprennent de lui. Donc, il y a des choses que normalement, la sunna, c'est de le faire à voix basse, que certains enseignants peuvent le faire des fois à voix haute pour enseigner aux gens. Donc, on peut dire qu'Abu Huraira a dit cela pour leur montrer que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça fait partie de la Fatiha, mais pas seulement obligatoirement pour leur montrer qu'il faut le dire à voix haute. Deuxième chose, ils ont répondu au hadith quand Qatada a demandé à Anas comment était la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en allongeant ar-Rahman et ar-Rahim. Ils ont dit ce hadith. Qatada n'a pas demandé à Anas comment était la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. Il lui a demandé comment était la lecture du Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce hadith peut être compris que c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran en dehors de la prière. Donc, puisqu'on trouve une explication de hadith de ceux qui disent qu'il faut le lire à voix haute et qu'on ne peut pas donner d'explication autre aux autres hadiths de ceux qui disent qu'on le lit à voix basse, on dit que la sunna, c'est de lire à voix basse Bismillahirrahmanirrahim dans la prière. Mais, il faut savoir que cette divergence, elle est ancienne et que chacun a des preuves. Nous, on penche vers un avis. Mais il ne faut pas que ce soit une cause de division entre les musulmans. Ah, je ne prie pas derrière un imam, il a dit Bismillahirrahmanirrahim à voix haute. Ah, c'est une bid'a, c'est un mubtadi', c'est un égaré, c'est un innovateur. Là, il a pris des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pensait avoir juste qu'il a suivi un grand savant d'islam qui s'appuie sur des hadiths. Peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il a raison. Nous, on penche vers un avis, on a des preuves, mais on ne va pas faire une guéguerre pour ça. Ça, c'est des divergences acceptables. Taïm, lire la Fatiha derrière l'imam. Il y a trois avis. Le premier avis, c'est l'avis d'Abu Hanifa et de ses suiveurs, qui dit qu'on ne lit pas la Fatiha derrière l'imam, que ce soit dans les prières à voix haute ou à voix basse. Il s'est basé pour cela sur un hadith qui est rapporté par Ibn Majah et Ahmad, mais c'est un hadith da'if. Celui qui est un imam, la lecture de l'imam est pour lui une lecture. La deuxième chose sur laquelle ils se sont appuyés, ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, al-Nasa'i et Abu Daoud, qui est un hadith sahih, où Imran ibn Hussein rapporte que les gens ont prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière de dhuhr. Et qu'une personne a lu à voix haute « Sabbih isma rabbika al-a'la ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la fin de la prière, lui dit « Qui d'entre vous était celui qui lisait ?» La personne a dit « C'est moi ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai eu l'impression que tu étais en train de me disputer ma place. » C'est-à-dire l'imam, lis-toi derrière, tu es en train de lire à voix haute. Mais ce hadith, le maximum de ce qu'on peut trouver dedans, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de lire à voix haute. Mais il ne lui a pas interdit de lire tout court. Ça, c'est le premier avis. En sachant aussi que Abu Hanifa voit à la base que la lecture de l'Fatiha dans la prière, ce n'est pas un pilier. Par exemple, pour lui, si tu te lèves, tu dis « Allahu Akbar »« Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja »« Allahu Akbar » C'est bon. Sans la Fatiha. Il faut le faire, mais il dit que ce n'est pas un pilier. Il voit que c'est une obligation ou bien certains voient que c'est une sunnah. Mais sahih, cet avis, il est faux. Comme on a vu auparavant, toutes les preuves, tous les hadiths qui prouvent que lire la Fatiha dans chaque raka'a, c'est un pilier. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc c'est clair et net. Le deuxième avis, c'est que celui qui est derrière l'imam lira la Fatiha, ou même le Coran. Quand l'imam lit à voix basse, lui, il lira à voix basse. Mais quand l'imam lit à voix haute, c'est-à-dire dans le Fajr, et le Maghrib, et l'Isha, alors il ne lira rien. Ni la Fatiha, ni une surah. Ça, c'est l'avis de l'imam Zuhri, et de Malik ibn Anas, et d'Abdullah ibn al-Mubarak, et de Muhammad. Muhammad, ça, c'est un des grands savants de le Madhab al-Hanafi, qui était un des compagnons de Abu Hanifa, qui, subhanallah, ça montre aussi comment les savants étaient. Ça peut être l'élève d'un grand savant, il a un avis divergent avec son maître. De même que c'est l'avis de Ahmed ibn Hanbal, et c'est l'avis aussi du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés sur la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans sourate Al-A'raf. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quand le Coran est récité, écoutez-le et prêtez-y attention, certainement vous récolterez la miséricorde d'Allah. Donc, ils disent ce verset, c'est un ordre d'Allah tabarak wa ta'ala, spécifiquement bien sûr dans la prière, que quand le Coran est récité, il faut l'écouter. Donc ils disent, tu ne peux pas écouter et lire. C'est pas possible. De même qu'ils se sont basés sur un hadith rapporté par l'imam Abu Dawoud, et Tirmidhi, et Nasa'i, et Ibn Majah, qui est un hadith sahih, véridique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama ju'ila l'imamu li'utamma bihi, fa'idha kabbara fa'kabbiru, wa fi akhir hadith, wa idha qara'a fa'ansitu. » L'imam a été fait pour être suivi. Quand il fait le takbir, quand il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Jusqu'à la fin du hadith, et quand il lit, écoutez-le. Un autre hadith, le hadith d'Ibn Shihab, selon Ibn Akima, selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retourné après avoir fini une prière à haute voix. Et il a dit, est-ce que l'un de vous a lu avec moi dernièrement? Une personne a dit oui au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui cherchent à me devancer, à me concurrencer dans la lecture du Coran. Qala, il a dit, donc ça quand il a dit, ça la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est finie. Il a dit, qui a dit? On va voir après. Alors les gens ont arrêté de lire avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il lisait à voix haute. Par Abu Daoud, et Tirmidhi al-Nasai ibn Majah. Le hadith auparavant, que je vous avais dit qui a été rapporté par Abu Daoud, il est rapporté par Muslim. Et Abu Daoud et Nasa'i. Tayyib. Ils se sont basés aussi sur un autre hadith qui est da'if, qui est faible. C'est celui qu'on a vu auparavant. Celui qui a un imam, la lecture de l'imam est suffisante pour lui. Ce hadith, il est faible. Donc, ce n'est pas une preuve. Donc, ce groupe-là, il se sont basés sur quoi? Sur le verset du Coran où Allah Ta'ala dit, quand le Coran est récité, écoutez. Et sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que vous avez à me concurrencer dans la lecture du Coran pendant la prière, dans une prière à voix haute. Et d'autres preuves qu'on va voir après le troisième avis. Le troisième avis, c'est l'opposé du premier avis. C'est de lire la Fatiha dans toutes les prières, que ce soit à voix basse ou à voix haute, on lit la Fatiha derrière l'imam. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i et d'Ibn Hazm. Et c'est l'avis de l'imam Shawkani. Et c'est l'avis des savants du Hijaz actuellement, comme Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et d'autres. Ils se sont basés sur quoi? Premièrement, le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim de Ubadah ibn Samit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Ils se sont basés sur un autre hadith rapporté par Abu Huraira, qui est rapporté aussi par l'imam Muslim et Abu Dawoud, et Tirmidhi, et Nasa'i, et Ibn Majah, qui est un hadith sahih. Où Abu Huraira radiallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie une prière dans laquelle il ne lit pas la mère du livre, c'est-à-dire le Fatiha, Ummul Qur'an, elle est caduque, manquante, elle n'est pas complète. Puis on a dit à Abu Huraira radiallahu anhu, on va être derrière l'imam. Comment on fait? Faqala, lis-la en toi-même, c'est-à-dire à voix basse. C'est une fatwa de Abu Huraira en s'appuyant sur une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que derrière l'imam, il faut lire à voix basse. Et ces deux hadiths, ils disent ce qu'ils disent qu'il faut lire, ils sont venus. Le verset qui dit qu'il faut écouter le Coran quand l'imam lit le Coran, il est général. Et ces deux hadiths, ils sont spécifiques. Et il y a une règle dans Usul al-Fiqh qui dit que quand une règle spécifique est citée, elle vient spécifier les textes généraux. C'est-à-dire, en général, tu dois écouter tout le Coran, tu ne dois pas réciter, sauf la Fatiha. La Fatiha, tu la lis. C'est ça que ça veut dire. De même qu'ils ont dit que dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, où il a dit, quand l'imam lit, fa'ansitu, écoutez, que ce rajout dans le hadith, les grands savants du hadith, les huffaz, ils ont divergé sur la véracité de ce rajout. Et parmi eux, il y a Abu Daoud qui a dit laysat mahfouza, cette surplus, il n'a pas été rapporté par des sources sûres. De même, ça a été dit par Ibn Mu'in et Abu Hatim al-Razi et Dar-Qutni et Abu Ala al-Naysaburi. Et tous ces huffaz, tous ces grands savants du hadith qui disent que ce surplus, il ne fait pas vraiment partie du hadith, ça passe en priorité sur l'avis d'un muhadith qui est l'imam Muslim. Tous ces savants, qui sont des grands savants du hadith, comme Ibn Mu'in, Abu Hatim al-Razi, Dar-Qutni, et Abu Ala al-Naysaburi, Abu Dawood, tous ceux-là qui sont des grands savants du hadith et des connaisseurs du hadith, on dit que ce surplus-là ne fait pas partie du hadith. Donc, il y a une divergence sur ce surplus. À partir du moment où déjà on sait qu'il y a une divergence, déjà ça affaiblit de s'appuyer sur ce texte-là. Et pour prouver cela, ils ont rapporté deux autres hadiths avec des chaînes de transmission véridiques qui montrent clairement qu'il faut lire la Fatiha derrière l'imam, même quand il lit à voix haute. Premièrement, le hadith de Ubada ibn Samit, radiallahu anhu. On a prié la prière de l'Fajr, derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et la lecture a été lourde pour lui. Après qu'il ait fini, il a dit, est-ce que vous lisez en même temps que votre imam? On a dit oui, oui, rapidement au messager d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne le faites pas, sauf Al-Fatiha. Car il n'y a pas de prière pour celui qui ne la lit pas. Ce hadith, comme on a dit, il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et Bukhari, mais pas dans Sahih, dans un autre livre qui s'appelle Juz al-Qira'ah. De même qu'il a été rapporté dans un autre hadith, rapporté par l'imam Ahmed, Al-Bayhaqi et Al-Bukhari aussi dans le même livre, Juz al-Qira'ah, qui est un hadith aussi Sahih, celui-là qui est véridique, où il a été rapporté qu'une personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous, est-ce que vous lisez derrière votre imam alors que l'imam est en train de lire? Ils ont dit oui, on fait cela au messager d'Allah. Alors il a dit, ne faites pas cela, sauf quand l'un de vous lit la Fatiha, Ummul Kitab. Ummul Kitab, c'est un des noms de Fatiha. Ummul Qur'an, ou Ummul Kitab, c'est-à-dire la base ou la mère du Qur'an. Et comme on a dit, ce hadith, il est sahih. Donc voilà les trois avis. Et là, je vais faire une petite parenthèse pour expliquer un petit peu ce que certains savants contemporains ont dit sur cela. Et on va essayer de sortir, Inch'Allah, l'avis le plus juste à la fin. Tayyib. Il y a un savant contemporain qui est décédé il y a pas longtemps parmi les grands savants de cette époque, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui dit, qui a le deuxième avis, c'est-à-dire qui dit que quand l'imam lit à voix haute, on ne lit pas. Et quand l'imam lit à voix basse, on lit la Fatiha. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces hadiths qu'on vient de citer, ils sont justes. C'est des hadiths sahih. Mais il dit qu'en fait, il y a eu trois étapes. Une étape où tous les sahaba lisaient tout le Coran derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Fatiha, les surahs, tout. Une deuxième étape où ces hadiths ont été révélés, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de lire autre que la Fatiha et leur a dit de lire la Fatiha. Et une troisième étape, un hadith qui est venu abroger toutes ces règles d'auparavant et qui est venu avec une règle définitive où il leur a interdit de lire quand l'imam lit à voix haute. Et cette troisième étape, c'est le hadith d'Abu Huraira qu'on a vu auparavant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que l'un de vous a lu avec moi? Et une personne a dit oui, moi au messager d'Allah. Et il dit, qu'est-ce que j'ai à me faire concurrencer dans la lecture du Coran? Puis à la fin, la parole qui dit, alors les gens ont arrêté de lire le Coran quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait à voix haute. Donc il dit que ce hadith-là, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit que ce hadith, il est venu abroger les autres. C'est-à-dire que les autres existaient à une époque, cette règle était pratiquée à une époque, mais elle a été abrogée avec ce dernier hadith. Taïm. Ça, c'est son avis. Mais, il faut savoir que dans Usul al-Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence, il y a des conditions pour accepter de dire qu'un hadith peut abroger un autre, ou une règle peut en abroger une autre. La première des conditions, c'est de connaître la date des deux hadiths, de savoir avec certitude ou avec une grande preuve que le hadith qu'on prétend qu'il abroge celui d'avant est venu après le premier. Donc il faut des preuves. Là, on n'a aucune preuve. Il n'y a pas de preuve de date. Ni même de preuve qu'il est venu après ou avant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand certains hadiths se contredisent en apparence, ils se contredisent. Mais en vérité, auprès d'Allah et auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne se contredit pas, ça se complète. La seule difficulté, elle est pour nous. C'est pour nous que ça se contredit, parce qu'on ne comprend pas. Il y a une manière de d'en profiter ensemble. C'est d'utiliser tous les hadiths ensemble et de considérer que certains sont généraux et d'autres sont spécifiques, donc ça se contredit pas. Ça se contredit pas. Donc en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de lire, ça c'est en général, sauf la Fatiha, ça c'est spécifique. C'est-à-dire, le deuxième hadith est venu rajouter un détail que le premier n'avait pas cité. Et dans la règle du fondement de jurisprudence au Usul al-Fiqh, tu ne vas pas faire un nasr, tu ne vas pas aller utiliser le fait d'abroger une règle sans avoir pu auparavant réunir les deux règles ensemble, les deux hadiths ensemble. Si tu arrives à garder les deux hadiths ensemble et à en tirer des règles des deux, c'est obligatoire d'agir avec les deux avant de passer à l'abrogation. Parce que si tu abroges, tu as fait quoi? Tu en as délaissé un, n'est-ce pas? Tu es arrivé à en délaisser un. Parce que tu dis que l'un a abrogé l'autre, n'est-ce pas? Donc là, il n'y a pas de preuve que ça a abrogé. Deuxièmement, on peut trouver une entente entre les deux textes, que l'un est général et l'autre il est venu rajouter un détail qui n'était pas cité dans le premier. C'est-à-dire que la première version, elle a juste rapporté quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « ne lisez pas ». Et les autres versions ont rapporté « ne lisez pas » sauf la Fatiha. C'est-à-dire le surplus n'a pas été rapporté dans la première version. Ça se contredit pas. C'est comme si ici, dans la salle, vous écoutez tout ce que je dis. D'accord? Et vous partez. Une personne à l'extérieur vous demande « qu'est-ce qu'a dit l'imam ?» Vous vous dites « il a dit, par exemple dans ce sujet-là, il a dit qu'il faut pas lire derrière l'imam. » Un autre, il dit, oui, c'est vrai, il a dit, il faut pas lire, sauf la Fatiha. Est-ce qu'il y a contradiction entre ces deux paroles? Dites-moi. Non. Le deuxième est venu rajouter un détail que le premier n'a pas cité. C'est tout. C'est exactement pareil dans ce cas-là. Autre chose. Si on dit, on peut pas dire que c'est abrogé pour une autre raison. Le hadith qui dit que les gens ont arrêté de lire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait à voix haute, qui l'a rapporté? Abu Huraira. Et le hadith qu'on a vu après rapporté par Muslim et Abu Dawud et Tirmidhi et Nasa'i ibn Majah qui est sahih, où les gens ont demandé à Abu Huraira quand il a dit, celui qui prie sans lire la Fatiha, sa salat est invalide, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'on fait quand on est derrière l'imam. Il a dit, lisez à voix basse. Donc, Abu Huraira qui a rapporté le premier hadith, C'est lui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a ordonné aux gens de lire derrière l'imam à voix basse. Si le premier hadith voulait dire qu'il ne fallait pas lire la Fatiha, le premier à en être au courant, c'est qui? Celui qui rapporte le hadith, Abu Huraira, n'est-ce pas? Et lui, il dit qu'il faut lire la Fatiha derrière l'imam, car sinon la prière est invalide. Ça prouve quoi? Ça prouve que le hadith de Abu Huraira n'est pas là pour dire qu'il ne faut rien lire, mais est là pour dire qu'il ne faut rien lire, sauf la Fatiha, à voix basse. Un dernier argument qui pourrait pencher vers le fait qu'on lit la Fatiha derrière l'imam, même quand l'imam lit à voix haute, c'est que la parole فَانْتَهَ النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَا جَاهَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Quand on a dit قَالَ dans le hadith, il a dit, on a dit, on ne sait pas qui, ou Abu Huraira, ou quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est sûr. Parce qu'il dit, les gens ont arrêté de lire derrière le prophète صلى الله عليه وسلم quand il lisait à voix haute. Ce rajout-là, ceux qui se basent sur ce hadith, ils disent que c'est Abu Huraira qui l'a dit. Mais on a dit auparavant que c'était pas possible. Ça se contredit. Mais en vérité, c'est une parole de l'imam Zuhri, un des rapporteurs du hadith. Donc, ce n'est pas une hujja, donc ce n'est pas une preuve. Et qui a dit cela? Qui a dit que c'était une parole de l'imam Zuhri? Ça a été rapporté de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, il dit que ça fait pas partie des paroles d'Abu Huraira, mais c'est une parole de l'imam Zuhri. De même que Abu Dawood, de même que Ibn Yusuf al-Dhahali wal-Khattabi, de même que l'imam al-Nawawi, rahimahumullah, qui sont tous des savants du hadith. Ils disent ces paroles-là, cette parole, que quand il a dit, et les gens ont arrêté de lire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il lisait à voix haute, ce n'est pas une parole de Abu Huraira, c'est une parole de l'imam Zuhri, qui est un suiveur. Ce n'est pas un compagnon. Donc c'est son effort, c'est son avis. Ça reste un avis juridique. Ce n'est pas une preuve assez forte devant les autres hadiths qu'on a cités auparavant. Donc en réunissant tout ça, on dira que l'avis le plus juste, c'est qu'on est obligé de lire le Fatiha derrière l'imam, que ce soit quand il lit à voix basse ou quand il lit à voix haute. Maintenant qu'on a vu cela, comment on lit? Et quand est-ce qu'on lit? Il y en a, ils vont dire, on lit quand lui, il finit. Il finit la Fatiha, après nous, on commence. Et d'autres qui vont dire non. À chaque fois que l'imam est sur le point de finir un verset, toi, tu commences et tu finis. Et tu lis rapidement. Quelle est la preuve que tu lis rapidement? Quand le hadith qu'on a vu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, est-ce que vous lisez derrière l'imam? Ils ont dit, na'am, hadhan, ya Rasulallah. Hadhan, c'est-à-dire, il mange les mots rapides. Rapidement, c'est-à-dire il récite, mais rapidement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne le faites pas, sauf pour la Fatiha. Donc, il ne les a pas critiqués du fait de lire rapidement. Il leur a juste dit de ne pas le faire dans les autres sourates que la Fatiha. Donc, on le lit rapidement, et on le lit en même temps que l'imam. C'est-à-dire, dès qu'il commence à finir un verset, on finit. Quand il finit, dalin, on finit en même temps que lui pour dire amin en même temps que lui. Pour dire amin en même temps que lui. Et on va voir cela par rapport au ta'min, justement, que c'est une sunna de dire amin à voix haute pour l'imam et pour ceux qui prient derrière lui. Quelle est la preuve de cela? Premièrement, le hadith de Bukhari et Muslim, quand Abu Huraira radiallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'imam dit amin, dites-vous aussi amin. Car celui dont son ta'min, dans le fait de dire amin, est dit en même temps que les anges, Allah lui pardonnera ses péchés passés. Si on dit tous amin en même temps que les anges, qui disent amin aussi après notre lecture, Allah lui pardonne ses péchés passés. Donc ce hadith, il prouve quoi? Que l'imam dit amin à voix haute, et que le ma'moumin, ceux qui disent amin derrière, à voix haute aussi. D'ailleurs, Wa'il ibn Hudr a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire غير المغضوب عليهم ولا الضالين, et il a dit amin en allongeant sa voix. Donc ça prouve quoi? S'il l'a entendu dire amin, c'est qu'il l'a dit à voix haute ou à voix basse? À voix haute. دبن كريمام الترمذي رحمه الله دي اي سا سي لافي de la majorité d'un grand groupe de savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi ceux qui l'ont succédé et ceux qui sont venus après eux. Et que la personne, elle doit élever sa voix en disant Amin. Et c'est l'avis de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed et de l'imam Ishaq ibn Rahawai. De même que Ibn Jurayj, il a demandé à Atta, est-ce que Abdullah ibn Zubayr disait Amin à voix haute? Il a dit oui. Il disait Amin à voix haute et les gens derrière lui disaient Amin à voix haute jusqu'à que la mosquée elle tremble. Ils disaient tous Amin. Comme maintenant, mashallah. Les gens ils aiment bien dire Amin à voix haute, Allah ybarak. Alhamdulillah. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'on a vu cela, qu'il faut dire Amin à voix haute, maintenant il y a une autre question. Est-ce qu'on dit Amin après que l'imam ait dit Amin, ou est-ce qu'on dit Amin en même temps que l'imam dit Amin? Ça vous arrive pas? Des fois, vous priez, vous voyez des frères, ils disent Amin après tout le monde. C'est parce que c'est un avis religieux. Parce que certains ils disent, tu dois pas le faire en même temps que l'imam, tu dois le faire après lui. D'accord? Maintenant, on va voir quel est l'avis, Inch'Allah, le plus juste. Certains savants, donc, ont dit que la personne ne doit dire Amin que après l'imam. Ils se sont basés sur quoi? Sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Innama ju'ila l'imam liu'tamma bihi » L'imam a été fait pour être suivi. Donc ils disent « être suivi » ça veut dire quoi? Après lui. De même, le hadith, dans le même hadith, si l'imam dit « amin », alors dites « amin ». Donc ce « alors » fa'amminu, ça montre que ça vient après le ta'min, le amin de l'imam. Et d'autres disent que tu dis amin en même temps que l'imam. Quelle est leur preuve? C'est le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari qui est rapporté par un muslim et Abu Daoud et Nasa'i et Ibn Majah qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'imam a été fait pour être suivi. Quand il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Et quand il dit « Ghayril maghdoubi alayhim waladdallin » alors dites « Amin, Allah vous aimera ». Donc là, ils n'ont pas dit d'attendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith n'a pas dit d'attendre que l'imam dise « Amin ». Mais il a demandé de dire « Amin » juste après que l'imam dise « waladdallin ». C'est-à-dire, ça tombera en même temps que lui. C'est clair. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit « Dites-le dès qu'il finit « waladdallin » dites « Amin ». Et à ce moment-là, qui dit Amin en même temps? L'imam. Et Inch'Allah en même temps que les anges. Wallahu a'lam, cet avis il est plus juste pourquoi? Car comme ça, ça permet que tout le monde dise Amin en même temps et que ça tombe en même temps, Inch'Allah, que le ta'min des anges. Car on a dit que les anges ils disent Amin. Ils vont dire Amin une fois. Donc comment alors? L'imam il dit Amin et il va pas avoir les anges? Et les gens ils disent Amin, il va pas avoir les anges. Il y a un des deux groupes qui aura pas un Amin avec les anges. Il y a un problème. Pour que tout le monde est le Amin avec les anges, faut que tout le monde dise Amin en même temps. N'est-ce pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui dit Amin en même temps que les anges, Allah lui pardonnera ses péchés passés. Et dans ce hadith, on voit clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de dire Amin après la fin du verset. Par contre, personne ne dit qu'on peut le dire avant. Et ça, j'ai remarqué que la plupart des gens, ils le disent avant l'imam. Je vais vous dire encore une autre chose. Et ça, on va le voir dans ce point d'ailleurs. De toute façon, c'est le point dont on va parler. Que c'est détestable pour l'imam de faire une prière trop longue si ça gêne les gens. C'est détestable pour l'imam de faire une prière trop longue si ça peut gêner les gens. Selon Abi Mas'ud, il a dit qu'un homme a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas à la prière de l'Fajr, car telle personne, il fait une prière trop longue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché. Il a dit, je n'ai jamais vu se fâcher comme ça. Mais jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fâche pour sa propre personne. Il se venge pas pour lui-même. Comme là, la personne, elle lui a dit, il fait la prière trop longue, alors je vais pas à la prière de Fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a fâché. Pourquoi? Il s'est dit quoi? À cause de lui, il y a des gens, ils vont pas à la mosquée. Ça l'a fâché. Et il a été, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il dit, oh vous les gens, parmi vous, Il y a des gens qui font fuir les gens. Celui qui préside la prière des gens, qu'il la fasse légère. Car derrière lui, il y a des gens faibles, des gens âgés et des gens qui ont un besoin. D'ailleurs, Mu'adh ibn Jabal a récité une fois Sourate al-Baqara en entier dans une prière. Et il y a une personne, subhanallah, il s'est retiré de la prière. Cette personne, elle est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ya Rasulallah, il a été tellement long, j'ai été obligé de sortir et de recommencer la prière tout seul, d'affaire tout seul et partir. C'était trop. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été voir Mu'adh ibn Jabal. « Tu es un trouble fait, tiens Mu'adh. » Il lui a dit « Pourquoi tu n'as pas présidé avec cette bihisma rabbika al-a'la ?»« Ou al-shamsi wa duhaha ?» Donc ça, c'est au cas où c'est difficile pour certains. Par contre, si on sait que presque tout le monde, ou que les prieurs, ils aiment bien que des fois tu allonges un petit peu, parce qu'ils profitent de la prière. Dans ce cas-là, c'est permis d'allonger, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonnait d'alléger la prière, et lui-même, il présidait la prière avec « wassafati safa ». C'est quand même un petit peu long, parce qu'il sait que les gens qui sont derrière lui, ils aiment ça et ils supportent. Selon Jabir ibn Samura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait comme vous priez, mais il allégeait la prière. Et sa prière était plus légère, plus courte que votre prière à vous. Et il lisait dans Salat al-Fajr, Surat al-Waqi'a par exemple, ou des surahs d'à peu près cette longueur-là. Donc on va dire comme Ar-Rahman en entier dans une raka'a, Al-Waqi'a en entier dans une raka'a. Ça donne une demi-heure, à peu près de 20 minutes, une demi-heure de prière. Non. Ça pour eux c'est léger. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allégeait. Regardez comment sahaba disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allégeait. C'est-à-dire pour eux, ils ne lisaient pas le Baqara, ils ne lisaient pas des longues surahs. De même que Abdullah ibn Mas'ud, il a cité 20 surahs parmi Al-Mufassal. Al-Mufassal, c'est ce qui vient après Qaf. Après surat Qaf jusqu'à Nas. Ces surahs-là, en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qu'il récitait le plus souvent. Il récitait le plus souvent, c'est ça, en prière. Tout ce qui est après Qaf, etc., en dessous jusqu'à Nas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une prière où on lit une sourate entière dans chaque raka'a, elle a plus de valeur qu'une prière où on lit une partie de sourate. C'est permis. C'est déjà arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lise juste une partie de sourate dans la prière. Mais elle a moins de valeur que de lire une sourate en entier. Donc il vaut mieux par exemple lire même les sourates courtes et lire une sourate en entier dans chaque raka'a que lire, par exemple, des morceaux de sourate par-ci, par-là, il y a plus de hasanat, plus de récompense. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Regardez ce qu'il a dit à Mu'adh. Il lui a pas dit pourquoi t'as pas lu juste un morceau de l'Baqara ou un morceau de Nisa. Non, il lui a dit, lis sabbih isma rabbika al-a'la, c'est-à-dire la sourate en entier. Lis wa shamsi wa duhaha. Lis wa layli idha yarsha. Donc, la sunna, en général, c'est d'essayer de lire dans chaque raka'a une sourate entière, du début à la fin. Mais c'est permis, comme on l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait à plusieurs reprises, de lire juste une partie de sourate. Une partie par là, une partie par là. C'est permis. Il n'y a pas de mal. Mais il y a moins de hasanat. La prière, elle sera moins complète, et elle sera moins proche de l'habitude du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lire une sourate dans chaque raka'a. Donc, avec quoi on sait, est-ce que c'est long ou est-ce que c'est court? On regarde la situation des prieurs derrière. C'est ça qui compte. On regarde la situation générale des prieurs derrière. Ce qu'ils peuvent en général supporter, on le fait. Ce qui est au-dessus de leur capacité, on le fait pas. Mais on peut de temps en temps comme ça, حَتَّى نُعَلِّمَهُمْ pour leur enseigner un petit peu la sunna, pour les entraîner, de temps en temps, un petit peu long, un petit peu de temps en temps, mais il faut pas que ce soit l'habitude. De même que Anas radiallahu anhu a rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raccourcissait la prière, mais elle était complète. C'est-à-dire qu'il faisait chaque pilier comme il faut. Raccourcir, ça ne veut pas dire ne pas être manquant dans les piliers, ne pas se tenir bien debout après le recours, ne pas rester assez longtemps dans le recours, ne pas rester assez longtemps dans le soujoud ou dans l'assise entre les deux soujouds. Non, on ne doit pas avoir de manquement dans les piliers de la prière ou dans les obligations. Mais c'est dont on allège la lecture. On lit pas des sourates trop longues. D'ailleurs, il a été rapporté dans le hadith de Bukhari et Muslim Anas radiallahu anhu a dit, je n'ai jamais prié une prière plus courte ni plus complète que celle que j'ai priée derrière les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il entendait les pleurs d'un enfant, il allégeait la prière de peur que sa mère soit tentée ou soit déconcentrée dans la prière.